Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde dont le thème est magie et magicien, entre enchantement et malédiction. Nous avons parmi nous Charlotte Bousquet, Nicolas Cluzeau, Mathieu Gavory et Frédéric Petitjean. Alors pour ceux qui ne connaissent pas leurs œuvres, Frédéric Petitjean, ça y est, il y a déjà un bandeau, Grand Prix de l'Imaginaire 2012, en roman jeunesse pour Les Dolches, La Route des Magiciens. Il va nous en parler, j'espère. Charlotte Bousquet, présent plus, qui gagne plein de prix chaque fois qu'elle vient aux Imaginales, Citerae, Matricia, et c'est dommage, c'est pas là, mais Nuit tatouée. Peut-être parce qu'il n'y a pas de magicien, pas trop encore.
En fait, c'est tout pour ça.
Mais donc, son prix imaginaire collégien pour Nuit tatouée, le premier tome de La Peau des Rêves. Nicolas Cluzeau pour Avant les Ténèbres, Chronique de la Mort Blanche, le premier tome. Mais on le connaît aussi pour Le Tigre de Citelle, et puis pour plein d'autres choses. Notamment Noir Saphir, le deuxième tome qui est déjà sorti. Et puis Mathieu Gavory, alors c'est dommage, on n'a que les royaumes crépusculaires, j'aurais aimé qu'on ait. On est aussi Agone, qu'on ait plein d'autres choses, notamment le dernier chez ActuSF, même si c'est des nouvelles d'une rive à l'autre. Il y a un magicien dont j'aimerais bien qu'on parle. Voilà, je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. On va essayer de pouvoir discuter entre nous de cette problématique du magicien qui semble classique chez chacun d'entre vous d'une façon différente. Mais moi, je crois qu'on est tous un peu, en tant qu'auteurs de fantasy, nombreux à rêver de posséder quelques pouvoirs magiques. Après tout, l'idée en elle-même, elle est plutôt tentante. Alors, c'est quoi les aspects positifs pour vous du fait de pouvoir être magicien ou de pouvoir manipuler la magie? Qui se lance en premier?
D'accord. Tu veux?
Et là, la galanterie prend un autre.
Ouais, c'est exactement ça.
Vous voulez,
Alors, d'être magicien, pour moi, ça a deux aspects. Un aspect qui est extrêmement pratique, qui permet de remplacer d'une certaine manière la technologie en lui donnant une touche un peu plus surnaturelle et totalement pragmatique. Ensuite, ça permet aussi de donner moi, à la magie une dimension, je dirais presque épique à certains aspects des récits. Donc, par exemple, justement, les malédictions, les rapports à la destinée, ce genre de choses.
Et vous, l'avantage de la magie ?
Moi, l'avantage de la magie, c'est... moi, je conçois la magie comme un artisanat, quasiment. Donc, c'est vraiment la manière dont on peut sculpter le monde, en fait, avec ses pouvoirs. Quoi. Donc, il y a un travestissement, une transformation du monde. Et ça passe aussi par une approche... tu parlais de pragmatisme, c'est ça, je trouve très intéressant dans la magie aussi. Qu'elle soit omnipotente ou comme ça, qu'elle n'ait aucune racine... Moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'une magie est importante à compter du moment où elle devient tangible, explicable, quasiment organique. Et c'est ça qui fait son intérêt. Enfin, en tout cas, je travaille comme ça.
Comme Mathieu, en fait, ma magie de mes livres très mécaniste, en fait. Il faut un très long apprentissage. C'est un métier, en fait. Il faut un petit don au départ, mais c'est comme quelqu'un qui a des dons en mathématiques ou en physique. Il faut qu'il arrive à résoudre des énigmes, des équations pour pouvoir utiliser la magie et compresser des équations en syllabes pour pouvoir attirer la magie dans le réel, en fait. Voilà, donc c'est une magie très mécaniste qui a un coût d'ailleurs. Voilà, et donc le résultat est que on vous détient un certain pouvoir. Donc, certaines responsabilités. Hein. Quel cliché.
C'est ma phrase. Voilà. Je me vais placer avec de grands pouvoirs, de grandes responsabilités.
Seulement un seul, c'est ma vie. Moi, c'est un peu difficile de passer là, parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. L'élément, il est pour moi lié à juste un tout petit pas d'avance avant la science, c'est-à-dire juste de dire, par l'imaginaire ou par la magie, on peut peut-être régler des choses de manière humaine, plutôt que justement par la science, par la technologie, justement, et d'arriver à rendre possibles les réponses, et pas que les questions, justement, mais avec des gens, avec du vivant, avec du biologique. Et pour moi, l'idée vraiment, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à développer une magie où il n'y a pas de sort, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de dragon, mais on était vraiment, ce qui est bien, j'adore, je suis fan, mais qui est lié vraiment à quelque chose qui est presque possible, qui est juste après nous, et qui pourrait presque toucher du doigt. Et là, ça commence à m'attirer parce qu'en tant qu'adulte, j'ai vraiment envie d'y croire. Voilà.
Et donc,
enchaînons, soyons fous.
Quel est le prix de cette magie ? Est-ce que vos magiciens et vos magiciennes doivent payer un prix pour pouvoir utiliser leur don ou le juste plus ?
Alors, je vais commencer. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'assumer la différence. C'est-à-dire que la magie, elle est liée, pour ce bouquin-là, à la dernière famille de magiciens au monde. Ils sont plus que 5, ils ont pas de pouvoir, ils sont dépassés par la technologie, ils agissent que sur les matières naturelles. À New York, il n'y en a pas beaucoup, et en fait, elle est véhiculée par deux enfants qui refusent ça, parce que c'est assumer une différence par rapport aux autres, où ils voient les autres, je veux dire, un peu moins vite qu'eux, ils sont obligés de mentir en permanence, donc lier une amitié, c'est compliqué, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer qui ils sont, ils vont passer pour débiles, pour fous, pour excentriques, ils ont juste envie de se mêler à quelque chose qui, à l'adolescence, est tout à fait élémentaire, c'est-à-dire à se mêler à la normalité, alors que la différence, c'est la richesse, mais à cet âge-là, c'est un peu compliqué de l'avoir. Voilà pour moi, en tout cas, le coût.
Moi, je crois qu'il n'y a aucun coût dans mes bouquins. Si j'essaie de...
19,90€.
Donc, allez-y. Non, il n'y a pas de sanction, précisément, parce que j'élève souvent la magie au rang d'art, c'est-à-dire que le magicien, pour moi, c'est l'artiste, a priori, et c'est vrai que c'est quelque chose, ça relève de la déception, c'est-à-dire l'idée qu'ici, dans ce bas monde, nous, on a l'art pour un petit peu savoir pourquoi on vit, la magie, c'est, enfin, moi, par exemple, dans les royaumes crépusculaires, pour prendre un exemple concret, il y a deux sortes de magie, il y a une magie artistique qui passe par la musique, qui passe par la geste, etc., et il y a les danseurs, qui sont des espèces de petites créatures humanoïdes, et qui sont, elles, capables de, en fait, de, quand on les utilise, de danser, et cette danse fait naître la magie. Mais c'est, moi, ce dont je voulais parler, c'était l'innocence, parce que cette créature, elle est totalement innocente, et c'est l'utilisation qu'on en fait qui va révéler, finalement, la nature de la magie. Parce que soit on torture ce danseur,
mais c'est pas un coup,
l'innocence. Mais non, parce que pour l'obscurantiste qui torture ce danseur, pour lui, ce n'est pas... C'est une jouissance, c'est un pouvoir, et pour lui, il n'y a pas du tout un acte connoté, si tu veux, maléfique, quoi. Il ne paye pas de sa personne, au contraire.
Il est détourné sur...
Non, mais lui...
Non, mais en fait, il ne s'en rend même pas compte, c'est pas son problème.
Mais c'est pas son problème, lui. Enfin, je veux dire, c'est comme le type qui exploite son jeton de pétrole, tu vois, c'est pas son problème. Ça marche très bien.
Sauf que les danseurs de Gorgol sont super mignons, on n'a pas envie de les voir utiliser comme
c'est,
ça.
C'est le principe, mais c'est le principe de l'innocence violée, enfin, tu vois, c'est ça dont ça parle. Mais encore une fois.
Tu parlais pas d'un coût forcément pour le magicien, mais il y a un coût à payer en Nicolas, peut-être en termes plus général sur le monde.
Tu vois, André. En fait, moi, dans les livres que. Dans les livres, les magiciens, en fait, doivent payer de leur personne. Enfin, déjà, ils payent leur personne parce qu'ils font des études pendant 15 ans pour arriver à être un certain rang de magicien, mais bon, ils payent de leur essence spirituelle, de leur essence physique, en fait, pour pouvoir lancer des sortilèges ou des rituels. Et certains rituels peuvent tuer, en fait, si on manque une syllabe dans un sortilège, certains rituels peuvent tuer le magicien, en fait.
C'est chaud.
Donc ils peuvent pisser du sang, et puis ils peuvent tuer, ils peuvent tomber des inanitions, enfin, pof. Et à long terme, les magiciens sont... C'est un peu comme si vous travailliez dans une centrale nucléaire, tu utilisais la source d'énergie, si tu veux, pour faire des merveilles, et il y a un coût derrière, quoi, c'est bon. Et tu peux tomber malade facilement. Donc, par exemple, dans ce roman-là, c'est une maladie qui touche tous les magiciens et les druides, en fait, et qui les extermine, en fait. Donc, et pour revenir à ça, c'est que les magiciens, en fait, dans les mondes que je développe, moi, ils deviennent de plus en plus avides de pouvoir et de magie, donc ils drainent toutes les ressources, toutes les essences du monde, et les mondes commencent à se désertifier, à perdre leur... tout ce qui fait merveilleux dans ces mondes, en fait. Donc moi, je pense que le coup, c'est, en fait, moi j'essaie une espèce d'allégorie sur l'utilisation des ressources naturelles, en fait, aussi. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pris la magie, en fait, dans mes mondes. Moi. Donc il y a la lutte entre des magiciens qui veulent justement garder, qui n'ont pas énormément de pouvoir, mais l'utilisent intelligemment, et ceux qui essaient d'arriver à un niveau de commande, de pouvoir qui qui pourrait détruire en fait le monde, enfin le monde, les mondes d'ailleurs.
Et chez Mathieu, ceux qui sont un peu soucieux de leur source d'énergie magique, ils ont moins de pouvoir que ceux qui ne sont pas soucieux finalement.
Attends, je ne suis pas certain de saisir ta question. Ouais. C'est-à-dire...
Est-ce que dans vos... quand je pense à Agon, quand les magiciens utilisent les danseurs, ceux qui les utilisent de façon respectueuse, un peu moins de pouvoir que ceux qui les torturent.
Ah, je suis pas sûr.
Ah bon ?
Non, je suis pas... non, je suis pas sûr parce que précisément, ce qui était intéressant, c'est de se dire la vérité avec un danseur, c'est l'empathie. C'est-à-dire le moment où vous êtes dans la compréhension du danseur. C'est pas pour rien finalement que les plus grands magiciens ou magiciennes dans ce monde-là sont des chorégraphes et généralement des femmes, c'est-à-dire qui ont les cheveux très longs et qui font jouer les danseurs dans leurs cheveux. Et c'est cette espèce finalement d'osmose quoi entre cette femme et les danseurs qui relève de l'empathie, donc qui relève d'une compréhension totale de l'autre. Et je pense que c'est précisément ce qui manque à notre époque. C'est ça, c'est-à-dire il y a l'écoute, la bienveillance, c'est des choses qui nous échappent. Et je trouve que c'est... Enfin, moi, dans les danseurs, j'ai mis tout ça parce que... On n'est pas dans la domestication, on est dans la compréhension. Et plus... Enfin, c'est très bateau, hein, tout ça, mais ça reste... Je pense que dans cette naïveté, il y a aussi une très grande vérité. En fait,
Charlotte,
chez
vous, est-ce qu'il y a un coup à la magie ou pas ?
Alors, d'une certaine manière, oui, parce que la magie est liée au destin. C'est-à-dire que dans le premier volume de cette trilogie de l'archipel illuminé, on a une femme qui est assassin, qui entend qui a une sorcellerie liée au destin, donc qui est capable de prévoir l'avenir, et qui ne l'assume absolument pas parce que ça voudrait dire qu'elle accepte tout simplement d'être globalement une fille qui peut sauver un royaume, un monde, un roi ou ce genre de choses. Mais en fait, je me rends compte que chez moi, la magie est plutôt, à part cet aspect... je dirais mythologique de prédestination, la magie est totalement neutre et le coup ne regarde que celui qui est prêt à y mettre quelque chose. C'est-à-dire que on est magicien comme on peut être artiste, comme on peut être spadassin, comme on peut être autre chose. Alors il y a les prêtres qui eux ont la foi, donc oui, bon ben voilà, ils vouent leur existence à la triple déesse et donc oui, le coup ça va être peut-être un certain mode de vie, ça va être une pratique, ça va être des prières, mais globalement le magicien comme vous et moi, voilà, hein, en gros, de dioniser quelqu'un qui va avoir des dons de manipulation mentale et de domination et qui est capable de changer les souvenirs des gens, et elle n'a absolument aucune raison de ne pas l'utiliser. Ça ne lui pose aucun problème. Et elle n'est pas malade, elle n'a pas de nausée, elle se regarde d'ailleurs très bien dans la glace, donc il n'y a pas de... Voilà.
Alors justement, selon les différents versions de chacun son goût, à partir de quel moment, puisque le thème de la table ronde, c'est entre enchantement et malédiction, donc on a vu comment ça pouvait être utilisé normalement, à partir de quel moment on bascule, à partir de quel moment le magicien devient un être qui subit ou qui par l'utilisation de sa magie, vit des moments difficiles. Quand est-ce qu'on passe de l'enchantement à la malédiction ?
Pour moi, ce qui me concerne, c'est assez basique. Ils sont, pour être magicien, comme ils sont liés complètement à la nature, ils sont liés à la vie. Il y a un élément qui est assez concret. À partir du moment où même accidentellement ils provoquent la mort de quelqu'un, ils ne sont plus magiciens, ils deviennent sorciers. Et là, ils sont liés au vieillissement et à plein de choses. Et en fait, ils doivent tout faire, même quand ils sont en lutte, et même quand ils doivent sauver leur vie, pour préserver celle de ceux qui les agressent, ce qui est assez compliqué pour eux, et ce qui fait en sorte que cette pluie va bientôt nous tomber dessus et qui fait qu'ils ont disparu et ils sont rendus très 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 disponibles entre guillemets pour leurs agresseurs, et c'est compliqué pour eux.
Donc tu parles du point de bascule en fait,
oui.
Du moment,
oui. Le moment où ça devient moins fun d'être magicien, quoi. Chez vous, effectivement, Mathieu, je suis pas sûr que ça soit fun dès le début.
Non, mais voilà, tu vois, je rejoins un peu Charlotte là-dessus, c'est-à-dire le côté, le magie neutre. Moi, mon danseur est neutre, tu vois, c'est l'utilisation qu'on en fait. Oui, mais il est très mignon, certes. Mais voilà, donc il n'y a pas de réellement de point de bascule. Donc, ce qui est important, c'est peut-être se dire à quel moment. Parce que, typiquement, par exemple, dans les crépusculaires, il y a aussi la magie des ombres, qui consiste en fait à dessiner sur, à cerner des ombres au sol, enfin les ombres de tout, hein, les monuments, les ombres d'une personne, et à l'ancrer en fait avec des encres particulières pour faire jaillir des démons. C'est-à-dire que l'ombre s'anime et crée une sorte de porte en fait démoniaque. Mais c'est l'ombre elle-même qui est un calque, une espèce de, vous voyez, d'ectoplasme, enfin c'est pas, c'est comme un manteau en fait. Et le démon se lève là-dessous. Donc là encore, c'est une utilisation parce que moi j'ai des advocates du diaboli dans mes bouquins où c'est des contrats, on contractualise quand on appelle un démon, il y a une signature, il y a l'invocation, etc. Donc on est dans un rapport encore une fois artisanal. C'est ce qu'on en fait qui définira aussi le but de la magie.
En fait, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la malédiction, c'est vrai de ne pas l'assumer, mais comme quelque part quelqu'un qui va avoir un don pour la musique peut faire tout pour briser son talent, tout pour fuir. Pour moi, la magie, c'est exactement pareil. Donc ça devient une malédiction à partir du moment où, globalement, on ne l'assume pas, où c'est pas ce qu'on avait choisi d'être, ou ça apparaît là comme ça alors qu'on n'avait rien demandé, mais globalement, vraiment, c'est une question d'humanité. C'est juste une question d'humanité, de malédiction, enchantement. Et la magie garde, de toute façon, des applications très pratiques.
Pas grand-chose à ajouter à ce que dit Charlotte, ce que dit Frédéric. Simplement que, en fait, moi, ça devient une malédiction dans le sens où le magicien n'a pas la patience d'aller jusqu'au bout d'un rituel tout seul ou en suivant des formules très précises, ou en tout cas un programme précis. Il va essayer de tourner la chose en faisant appel à une créature d'une autre dimension peut-être, ou que chez j'avance on appelle des sans-destins, moi j'appelle ça des daimons, enfin bon, ils vont en faire appel à une créature qui va les aider, et donc, mais cette créature, donc, qui a une essence autre que celle dans le monde dans lequel il vit, va le corrompre en fait, et va lui donner l'envie, comme un drogué en fait, d'utiliser cette magie de plus en plus, et d'abuser de son corps, son pouvoir, il va devenir décrépit, il va peut-être mourir et devenir une espèce de mort vivant, il va être malade, il va créer, la magie pour moi c'est quelque chose de, c'est comme toute science, il faut de la patience en fait pour faire des expériences, pour arriver à un but particulier. On ne peut pas prendre de raccourcis en fait. Si on prend raccourci, on se maudit soi-même, enfin on ne se maudit pas, mais on perd l'innocence en fait de ce qu'on voulait faire, et on se maudit soi-même en fait. Voilà, on se tue soi-même.
Mais enfin, je rebondis sur ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vrai que ce moment de point de bascule, on pourrait aussi se dire entre l'enfance et l'âge adulte, mais on travaille tous là-dessus, je pense, en tant qu'auteur, on est tous dans des obsessions de ce type-là aussi. Mais ça, c'est très important, parce que quand on parle même d'humanité, moi, la malédiction, ça serait presque de se dire jusqu'où la magie est utile et jusqu'où la magie a-t-elle un sens. Est-ce que la vérité, c'est pas précisément de savoir vivre sans magie et de la saisir chez les autres sans tous ces artifices, en fait. Et c'est une obsession depuis peu. J'ai essayé de comprendre ou d'expliquer ou de rationaliser, d'écrire dans le dernier bouquin, c'était de me dire jusqu'où en fait la magie n'est-elle pas un paravent, n'est-elle pas cette espèce de protection pour pas affronter l'autre et pour pas essayer d'aller chercher cette humanité en fait qui est la vraie magie, quoi. Et ça c'est très dangereux en fait de découvrir ça, parce que
vous mettez au cœur,
entre autres. Mais est-ce que précisément dire cette fée dans le cœur, encore une fois, c'est un artifice. À côté du moment où on dit qu'elle n'est plus là, c'est ton cœur, mais ton cœur, c'est ce qui nous concerne. Et c'est peut-être là qu'on interroge la vraie magie, c'est-à-dire de se dire, entre nous, où est l'étincelle et tout ça. C'est ça que je trouve un petit peu obsédant, parce que, d'une certaine manière, l'enchantement, jusqu'où l'enchantement n'est-il pas un mensonge ? Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence un petit peu à me travailler, et ça me fait très peur, parce que finalement, j'ai toujours vécu avec ça, c'est-à-dire la magie est sublime. J'ai toujours trouvé la magie sublime parce que je cherche la poésie. Mais j'arrive pas encore. Je ne sais plus faire la différence entre la poésie et cette magie-là, en fait. C'est ça le problème.
Alors, est-ce qu'il faut, pour remettre la magie vers la neutralité, la vraie magie qu'on pourrait partager tous au quotidien, est-ce qu'il faut transgresser un peu, est-ce qu'il faut dépasser les habitudes qu'on a de croire qu'avoir des pouvoirs, c'est mieux, parce qu'on n'a pas tous le pouvoir naturellement en nous, d'humanité, parler d'empathie.
En fait, votre question, j'ai envie de répondre à alors, je vais me la jouer là. Un hérétique du 3e siècle qui s'appelait Arius, qui était donc dont les écrits ont été détruits, qui disait que chaque homme avait en lui la puissance d'être son propre Dieu. Je trouve que ça répond très très bien à votre question. Et qu'effectivement, il suffit. Ouais. Déjà, dans l'absolu, il faudrait suffire d'eux. Voilà, c'est assez. L'idée, je crois qu'on a tous quelque chose d'assez magique en nous, qu'il faut trouver, creuser, chercher, pas avoir peur d'affronter, parce que c'est aussi, quelque part, la magie, ce que tu disais, c'est vrai que c'est assez génial, c'est aussi quelque chose qui voile. Et c'est aussi, ça voile le rapport à l'autre, mais ça voile aussi notre rapport à nous-mêmes. Et se dire, ah, ce serait super cool si j'avais des pouvoirs, en même temps, cherche. Ouais. C'est un peu, je crois qu'il y a ça aussi qui est vrai.
Tout le monde cherche, hein. Exactement.
Cherchons les pouvoirs qui sont en nous.
Non, mais c'est vrai, je ne sais pas si ça vous a fait ça quand j'étais enfant et que Star Wars est sorti à l'écran, je devais avoir 8 ans, évidemment, toute la soirée. J'ai essayé de faire bouger mon verre avec ma main, j'y suis pas arrivé, j'essaye encore, ça fait l'enfer. J'ai vraiment fait, quoi.
Donc, mais oui.
Non, mais bon, j'y arrive pas bien.
Mais c'est
bon.
Pour ça qu'on écrit des trucs avec voilà. Des gens qui font bouger.
L'élément, en tout cas, ce que moi je trouvais assez délirant, c'est d'arriver à poser ces éléments complètement irrationnels ou qui dépassent un peu la réalité dans un monde aujourd'hui où tout est super cadré, où on est. Où tout est défini, tout est pré-mâché, où on vous donne une information qui est super filtrée. Il y a plein d'éléments comme ça, et l'idée c'était d'arriver, quand on parlait de transgression, c'est justement, enfin, je trouve ça super intéressant la transgression, et de pouvoir oser, de prendre des risques, de se planter, et d'être confronté pour des magiciens aujourd'hui, alors que ça peut représenter dans quelque chose de plus ancestral un pouvoir énorme. Aujourd'hui, en ce qui concerne mon livre, aujourd'hui, l'idée, c'est que ça soit une contrainte. C'est-à-dire qu'il faut plus la cacher qu'autre chose, que d'être dans un élément tout ce qui est une particularité est soupçonnable, malheureusement, alors que c'est les différences qui font nos richesses. Et aujourd'hui, arriver à juste mélanger cet élément de modernité, où on a tendance à tout expliquer, à apporter des réponses avant même de poser les bonnes questions, je parle pas pour vous, mais c'est vraiment de pouvoir essayer justement de heurter un peu la société, de la faire bouger un tout petit peu, de dire simplement les codes qu'on nous donne sont peut-être pas forcément les bons, ça serait bien de se rapprocher, c'est dommage qu'il faille des lois pour tout, et que simplement la concertation entre les gens suffise pas, et si la magie ça peut être juste le moment où on peut régler en respectant un peu plus ce qui nous entoure, entre autres l'environnement, les choses qui nous ont donné, qui nous donnent manière à exister, oui, là ça peut être un lien intéressant. Et la transgression, du coup, dans cet élément, elle devient de pouvoir peut-être revenir à des choses plus fondamentales qu'on oublie vraiment clairement aujourd'hui.
On va s'arrêter là, ils ont. Non, mais justement, est-ce que. Nicolas, vous n'hésitez pas à maltraiter vos personnages.
Vous mettez des claques aussi aux
auditeurs. Oui, je maltraite les personnages énormément, en fait. Oui.
Et est-ce que
les personnages sont toujours confrontés à des épreuves de plus en plus difficiles, en fait. Pas des épreuves, des énigmes, des épreuves, des obstacles. Et donc, même un magicien... Enfin, les magiciens sont généralement pas si puissants. Donc, c'est des gens qui essaient d'utiliser intelligemment leur magie pour résoudre des problèmes. Et malheureusement, quelquefois, un obstacle fait qu'ils sont obligés d'aller plus loin, de creuser plus loin dans leur personnage, enfin, dans leur être, dans leur moi, et, enfin, dans leur essence. Et ils se blessent vraiment gravement, et ils sont changés à jamais. Donc c'est vrai que je ne ménage pas mes personnages. Mes magiciens, surtout, ils en prennent, on peut le dire, plein la gueule, c'est sûr. Mais surtout, dans le dernier volume, oui, il y a une maladie qui les décime tous, en plus. Et donc, il y a une course contre la montre qui fait que deux magiciens essaient de trouver une solution. Voilà.
Il y a un magicien juste derrière.
Ils en meurent. D'ailleurs, ils sont pratiquement tous décimés. En fait, il ne reste plus beaucoup, en fait, hein, dès le début du bouquin. En fait,
vous en faites.
En fait, j'ai l'impression que j'essaie de tuer peut-être la magie dans un certain niveau, quoi, parce que j'étais trop exagéré dans mes livres avant. Je ne sais pas. C'était inconscient, je ne sais pas, peut-être. Mais non, la magie, j'essaie de la préserver en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a une course ensuite pour essayer de faire une course contre la montre pour la préserver. Je sais pas, c'est.
Est-ce que justement ces magiciens puissants, ces personnages puissants, c'est à eux qu'arrivent les choses parce que parce qu'il serait peut-être temps de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer avec toute cette puissance.
Ben, la responsabilité dont on parlait tout à l'heure. Ben, oui.
Les questions fermées, comme toujours.
C'était quoi déjà question ? Est-ce qu'ils ont une responsabilité ?
Et est-ce que les épreuves que vous leur faites subir, c'est pas une façon de leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle
non,
à jouer ?
Ben non, parce que moi, enfin, moi j'ai pas de leçon à leur donner. Quoi. Ils s'en prennent effectivement pas mal plein la tête, mais c'est surtout ce que je trouve vraiment intéressant, je repense là pour le coup à Dionysia qui est probablement la magicienne la plus puissante que j'ai créée, puisqu'elle maîtrise à la fois magie liée au destin, cette espèce de domination empathique qui la rend vraiment capable de dominer les gens, et qu'en plus elle a commencé par apprendre le chamanisme avec un griot, donc elle est globalement capable aussi de gérer les démons, ce genre de choses. Donc ce qui est, elle est responsable, elle sait ce qu'elle fait. Quelque part, c'est quelqu'un qui fait des bons, elle fait pas mal d'erreurs, son but c'est la vengeance, mais globalement elle assume ce qu'elle fait, elle prend ses responsabilités et elle va jusqu'au bout. Quelqu'un qui, au contraire, je dirais toujours dans mes univers, Théodora qui est magicienne, elle, on a beau lui dire, jamais elle ne prendra ses responsabilités. Et pour moi, c'est vraiment une question de. C'est pas une question de puissance, c'est une question de personne. Comme nous, on peut avoir, voilà, on peut décider ou pas de prendre ses responsabilités. Quelque part, j'ai envie de dire que c'est presque comme, je sais pas, laisser tomber un ami dans un cas critique ou pas, c'est pareil. Ça peut être la personne la plus humble du monde ou la plus puissante du monde. C'est vraiment une question de soi, c'est une question d'humanité. À chaque fois.
On peut donc tous pratiquer de la magie sur nous-mêmes.
Allez.
Allez, Mathieu.
Donc, tu parles de quelle magie là ?
Je sais pas. C'est...
Non, mais la magie, c'est l'art, quoi. Enfin, faut être clair. Je veux dire, à un moment.
Donc, vous êtes tous magiciens.
Oui, en fait, l'écriture, c'est de la magie pour moi, en fait. Oui.
Non, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, à n'importe quel moment de la vie, si vous avez un acte créatif, vous enchantez le réel. Donc, vous êtes. Enfin, et en fait, je trouve que c'est tout le problème en fait de savoir où on loge la magie dans tout ça, parce que je trouve que un type par exemple qui, moi j'avais écrit une nouvelle là-dessus sur des gens qui s'oubliaient eux-mêmes et qui généraient en fait des sortes de mimes dans leur sillage, et le mime au bout d'un moment en fait allait vous vider de l'intérieur et se calquer à tel point sur ce que vous répétiez en permanence. J'ai fait ça pour parler d'amis qui se sont fait comme ça éteindre, anesthésiés par les horaires de bureau, des choses comme ça. Et voilà, c'est ce que tu parles de rétrécissement. Mais pour autant, je pense qu'il y a une force et un respect qu'on doit à ceux qui assument ça. Et là, pour moi, il y a peut-être aussi quelque chose qui dépasse même la magie, parce que, encore une fois, on aurait l'air très con si on n'avait pas d'art, quoi. Enfin, on sait tout, je veux dire, c'est ce qui nous fait un petit peu près, à peu près avancer, nous fait évoluer, mais au-delà de ça, un mec qui invente un... Enfin, je vais enchaîner le platitude, là, ça va d'être assez chiant, mais le type qui invente un vaccin aussi a de l'importance, c'est-à-dire au même titre que celui qui dessine, qui fait un très beau tableau. Mais dans le registre de l'émotion, dans tous ces registres qui font qu'on n'est plus dans l'imitation ou dans le mime, moi, c'est ça qui m'intéresse. Je me souviens que Pierre Bordage disait, là, dans une conférence, il disait, ça m'intéresse, en fait, d'écrire au moment où je décale le regard, où votre regard, un tout petit peu, il va plus être sur des rouages qui continue de tourner comme ça lassablement et à vide, mais vous allez vous sentir exister, quoi. Et je pense que la magie, au fond, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, c'est le moment où le réel n'a pas pris sur vous, mais vous avez pris sur le réel. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Parce que vous êtes roi, quoi. C'est ce que tu disais aussi. On est son dieu. Et voilà. Et moi, j'ai une sainte horreur du déterminisme. Et je pense que la magie, c'est aussi une manière de dire, voilà, je reprends le pouvoir, j'agis sur le réel. J'essaie au mieux de leur chanter, parce que c'est à peu près ça qui nous fait avancer, quoi.
Donc il y a un peu des magiciens du quotidien et des magiciens d'enchantement, un peu plus de...
Oui, et je pense que tu vois, il n'y a précisément pas d'échelle de valeur, parce que c'est ça qui est important. Et c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on aurait tendance un petit peu aussi à glorifier l'artiste, mais je trouve qu'on a des vraies questions à se poser en tant que même artiste ou citoyen là-dessus. à quel moment la question même de l'utilité, parce qu'on me dit moi le premier truc quand on me demande, quand on me connaît pas dans une soirée, on me demande qu'est-ce que je fais, je dis j'écris des livres, et on me dit mais qu'est-ce que tu fais vraiment comme métier.
Voilà.
C'est vrai que c'est difficile en fait, les gens soit vous cataloguent ou rendent parasites pour les plus durs, pour la frange dure, soit vous disent bah voilà, mais qu'est-ce qui est utile là-dedans par rapport à une société. Donc la c'est magie,
c'est horrible. J'ai vu ça horrible. Aussi avec la philosophie. Mais ça sert à quoi?
Oui, c'est ça. Donc je pense qu'on vit une époque tellement pragmatique. Je pense que vous vivez tous cette violence-là. On la prend de plein fouet. Et ce pragmatisme-là nous renvoie à cette histoire d'utilité. C'est vrai que c'est compliqué. Parce que, j'allais dire, il n'est pas artiste qui veut. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles.
Mais les magiciens qui s'en donnent la peine.
Oui, hein, sans doute. Part, c'est ça aussi. Sans doute.
C'est une question de volonté.
Enfin, et de chance aussi.
Oui, bon.
Est-ce que c'est pour ça que vous aimez tous être aux Imaginales, ce moment où vous êtes en groupe d'auteurs tellement nombreux que finalement la vraie question du quotidien c'est « Et toi, est-ce que t'écris ?»
C'est comment sont magiciens en fait.
Exactement. Et alors toi, tu fais quoi comme magie?
Une magie du quotidien, hélas.
Oui, un marché de la magie, c'est souvent génial. Donc, moi, juste pour rebondir, il n'y a pas très longtemps, j'ai deux enfants qui ont 12 et 8 ans, et il y a 2-3 ans, on était à table et on me demandait « Papa, tu fais quoi exactement ?» Je dis, j'écris des histoires. Et moi, regarde, n'importe quoi. du coup, bon, ça rend. C'est vrai qu'il y a 200 ans, on nous appelait des bouffons, donc je trouve ça assez bien de rester humble par rapport à ça. Mais moi, par rapport à la magie, je suis impressionné parce que j'ai des vrais auteurs. Moi, j'apprends juste mon métier de romancier et j'y suis pas encore. Mais je me sens vachement spectateur. Je me sens pas magicien moi-même. Parce que à chaque fois, je me suis levé pour écrire les pages du bouquin et c'était compliqué. Donc, j'ai trouvé que c'est un vrai travail. Mais je suis super d'accord sur l'art, sur l'élément et sur la création. Je reste aujourd'hui. Moi, j'écris des histoires que mes parents m'ont pas racontées quand j'étais gamin, quand j'étais fils unique. Mon père regardait le sport, ma mère répétait ses diamants au piano, et donc j'avais pas d'histoire. Donc je me suis tellement fait chier, mais pour un coup j'étais gamin, que j'ai commencé à développer mon imaginaire, et maintenant je raconte des histoires que j'avais envie qu'on me raconte. Donc au niveau de la magie, moi je suis beaucoup plus spectateur que vous, j'ai un élément, j'ai l'impression en tout cas d'être plus en recul et de regarder ça comme quelque chose qui m'impressionne et qui me donnerait envie de me substituer ou d'être par rapport à ça. Donc j'ai un œil peut-être un tout petit peu plus. Moins mature que vous par rapport à ça, enfin, j'ai l'impression en tout cas.
On peut du coup demander à Nicolas Cuzot, j'ai entendu sur une autre conférence dire que lui il aimait bien vivre ce qu'il faisait vivre à ses personnages, en tout cas pratiquer. Non, je vous ai entendu dire que vous aimez vivre ce que vous écrivez. Et je me dis, comment vous faites avec la magie? Parce que
En fait, moi quand j'écris, je suis totalement parti, comme je pense que tous les écrivains. Je suis parti dans un film à l'intérieur de ma tête, et puis je vis tout ce que tous mes personnages vivent. Chaque personnage est un fragment de moi-même, donc je vis tout ce qu'il vit, je le vis vraiment intensément. Donc oui, je fais de la magie dans ma tête en fait. Je fais une grande salle de cinéma, et puis je me projette mes films que je retranscris après par écrit. Voilà. C'est comme ça que je marche.
Donc pas de jeu de grandeur nature, de magie comme vous.
Non, par contre, je fais du jeu de rôle, par contre. Et donc là, par contre, voyez, comme certains, je crée des scénarios donc, où la magie a une grande importance aussi. Ouais. C'est tout pour moi.
Charlotte? Non, vous ne faites pas de magie au quotidien, mais...
Je ne sais pas, je fais des jeux de rôle aussi. Non, mais enfin, moi, j'avais envie de rebondir sur un truc qu'avait dit Mathieu, sur justement cette magie du quotidien. Qui n'était pas forcément non plus dans la création, mais qui était dans les choses simples, sur le fait de vivre parfois des moments magiques, qu'on s'appelle les imaginaires, mais des gens qui arrivent à faire quelque chose qui me paraît impossible. C'est vraiment ces petites choses, des fois des petites choses, des grandes choses qui sont. Je ne sais pas, moi j'ai une image qui me vient, qui est quelqu'un que je connais, qui est capable de faire à peu près ce qu'il veut avec des chevaux. Juste comme ça, il est là, et pour moi, c'est le plus grand magicien du monde. Sauf que il n'écrit pas de livre, il n'est pas artiste, c'est pas le problème. Mais il y a quelque chose qui était en lui et qui mène jusqu'au bout. Et je trouve que c'est ça qui est magique, et surtout avec une totale générosité.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. La magie pour moi, elle est liée à l'inconnu. C'est-à-dire que généralement à ce que je ne suis pas capable de faire, à ce qui va m'impressionner chez les autres, mais d'une manière évidemment pas forcément créative, mais sur quelque chose qui est très éloigné de mes propres capacités. Et du coup, effectivement, arriver à avoir des gens qui sont... moi, les musiciens, par exemple, pour rester dans, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup, parce que c'est un langage d'abord qui est universel, et on a envie d'être traduit par eux, et qui donc, ils ont trouvé quelque chose de fondamental. Et il y a des gens, des fois, enfin, avec deux doigts, trois accords et quatre cordes, ils arrivent à faire des trucs assez géniaux. Et ça nous emmène, enfin, il y a une chose qui est liée pour moi à la magie, c'est l'émotion. Et il y a des fois, je pense que tous ici, il y a des émotions qu'on vit dures ou superbes, des naissances, de ce qu'on veut, ça peut être sexuel, tout ça, mais l'émotion, elle est liée à quelque chose, des fois, qui dépasse complètement l'explication. Et là, on touche à des moments rares, souvent super furtifs, qu'on va chercher à reproduire. Moi, avec le LSD, j'y arrive pas, mais je sais pas vous.
Moi, c'est les locaux.
Ouais, voilà, les œufs sur le plat, j'en sais rien, mais... L'élément, c'est d'arriver à des fois aller rechercher des moments d'émotion et qu'on va vivre une fois, deux fois, trois fois. Je pense que le sport, même des fois, ça peut.
Oui,
il y a des émotions qui vous amènent délirant. Moi, je me suis.
C'est plus se confiner.
Non, mais. Non, mais il y a. Enfin, je sais pas, il y a des trucs. Moi, je me suis trouvé mais ridiculement ému. Enfin, ridicule, je veux pas, parce que justement, l'émotion, c'est un truc qu'il faut préserver. Mais en voyant des gens arriver au bout de 5, 6, 7 ans, 12 ans d'efforts, arriver à gagner une médaille, c'est super con comme exemple, mais. Il y a un truc qui se passe complètement fort et vous arrivez à figer 100 000, 200 000 personnes en même temps, exactement dans la même émotion, dans la même seconde. Et hop, ça s'arrête, c'est furtif, c'est parti. Et là, il y a quelque chose qui est juste un peu au-delà de l'humain. Et j'adore ce moment, je crois. C'est dur à décrire, c'est peut-être pour ça qu'on écrit autant. Parce qu'arriver à saisir ça, ben heureusement, c'est insaisissable. Et s'il y a un truc qu'on ne peut pas saisir, c'est la magie. Et c'est ça qui m'intéresse d'aller chercher dans les livres et dans les histoires aujourd'hui. Arriver à capturer ça de temps en temps dans l'émotion. Voilà.
Bah, c'est... Oui, je crois que c'est ce qu'on appelle la grâce, quoi. La grâce, et je me demande jusqu'où on ne touche pas en religieux, quoi, là-dedans. Enfin, on est quand même dans le sacré, on est quand même dans un... On parle d'instants qui nous dépassent, comme tu dis, ouais, et ça c'est vrai que c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est... je pense que c'est... Je me souviens de quelqu'un qui me disait rechercher ça dans ce qu'il écrivait, et qu'il écrivait pour ça, en fait. Pour chercher ce moment de grâce. Et c'est vrai que a priori on vit pour ça, mais en même temps dans la simplicité il y a aussi une grâce. Donc voilà, je pense qu'en fait fondamentalement c'est une écoute, c'est un état de réceptivité aussi, parce que il y a un moment où vous êtes sensible à ce qui vous entoure et là vous pouvez peut-être mieux recevoir en fait cette magie. C'est ça le plus important.
Il y a beaucoup de sociétés d'initiative qui commencent l'initiation par du silence et par la capacité d'écouter l'autre. Oui, effectivement. C'est peut-être ce qui amène beaucoup plus loin. Et qu'est-ce qui. Est-ce que dans vos univers, est-ce que les magiciens sont en rapport avec l'univers, justement, en rapport avec la grâce qui existe, en rapport avec les éléments, ou qu'est-ce qui est privilégié?
Je prends juste mon exemple rapide, c'est comme j'ai expliqué, le magicien ne peut pas exister sans l'essence du monde en fait. L'essence qui est en fait la création telle que le monde s'est fait, enfin, le multivers s'est créé par l'essence des divinités voyageuses ou pas voyageuses. C'est l'essence de ces divinités que les magiciens retirent en fait de la terre, de création en fait, pour pouvoir forger leur magie en fait. Enfin, ça c'est mon exemple rapide. Quoi.
Bah, en ce qui concerne les éléments, pour le coup, cette dernière famille de magiciens, et là, elle est liée à quelque chose de très simple. Dans les 60% d'eau qui constituent notre corps, pour eux, elle vient de l'océan Premium, l'océan unique, qui est autour du continent unique, et elle contient la totalité des molécules de la faune et de la flore que la Terre n'a jamais portée, disparues ou pas. Donc ils sont la dernière chance pour la planète de sauver son environnement, parce qu'ils portent tout en eux. Et évidemment, donc ils ne sont liés qu'à cette nature, et toute la vie, pour eux, elle est question... Enfin, tout est en vie, c'est-à-dire le minéral, quoi que ce soit, et c'est juste une question de vitesse. Je vais donner un exemple hyper idiot. Si une pierre, enfin un rocher, met 1 million d'années ou 1 000 ans à faire 1 mètre, elle n'est pas dans votre vitesse, dans notre vitesse de vie. Et en 60 ans, elle n'aura pas bougé d'un centimètre pour nous, donc elle est morte. Et donc eux, ils ont toute une notion qui est liée à la vitesse. Et donc il y a quelque chose qui est hors temporalité. Le temps, c'est la chose non concrète qu'on a inventée finalement. Et donc. Quand on arrive à sortir les éléments du temps, là on peut mettre tout en vie. Et pour en ce qui concerne cette famille-là, eux ils sont liés à un fonctionnement de la vie où rien n'est immobile. C'est juste une question. D'ailleurs, Enfin, là, on tourne à 700 km/h, je crois, sur la Terre, pour la révolution, je ne me souviens pas, mais on est en mouvement en permanence, quoi qu'il arrive. Donc, l'élément figé n'existe pas. Et eux, ils ont conscience de ça, ils prennent ça en eux. C'est vraiment c'est un élément de source naturelle complète.
Alors, pour conclure, est-ce que la magie est notre dernière chance à nous tous?
C'est le
moyen.
Ou un moyen,
ouais. Moi, je sais pas, par exemple, la seule chose que je sache faire bien, c'est écrire des histoires. J'ai encore, il va me falloir 100 vies pour essayer de les écrire mieux, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu d'imagination, j'ai cette chance. Et quand tu parlais de ce qui entre cette magie, moi, je peux pas inventer des histoires sans penser d'abord à la magie de l'univers en question. C'est mon point de départ. C'est d'abord une magie, et après j'arrive à écrire une histoire. Donc tous les jours quand je vais au café avec mon cahier, je pars de ça en fait. Je pars de cette magie. Et je cite souvent un exemple simple. Ce qui m'intéresse moi, c'est ce petit trou de souris qui vous permet de passer à travers l'inconscient collectif et qui va livrer votre regard sur cet inconscient collectif. Je m'explique. Vous prenez la sirène, vous travaillez sur la sirène. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est quelle est votre sirène. Si je vais puiser au tréfonds de votre subconscient, on arrive à le faire un peu remonter. Si je le trempe comme une photo, en fait, dans un révélateur, et que je regarde ce qui arrive, je veux voir tous les sédiments, en fait, de ce qui vous constitue, va dire, cette sirène, elle ressemble à ça chez vous, pour vous. Donc moi, c'est ce que je cherche en moi quand je vais décrire une sirène. Et ça part d'une chose simple, c'est... une sirène, une vieille sirène édentée dans une bassine de cuivre oxydée, avec la voix éraillée, ça m'intéresse beaucoup plus, et ça m'interroge sur le mythe lui-même. Mais le mythe est un point de départ, pour moi c'est quelque chose, c'est la porte qui nous permet à tous de nous rassembler autour du livre. Et voilà, et je trouve ça essentiel. Donc toujours avoir en tête ce qu'on partage, pour après livrer sa singularité en fait, son regard.
La sirène dont Mathieu me parle, c'est sa sirène de la Comédie du Soupir, et je vous conseille d'aller la rencontrer parce qu'elle est intéressante. Est-ce que la magie est notre last solution, notre dernière chance, Charlotte? Contre la pluie, par exemple.
Mais c'est bien la pluie.
La pluie, c'est de la magie aussi.
La pluie a été, puisque tu veux venir, mais dans de la pluie, souvent plus, tu t'en mets quelque chose.
Ouais, ça.
Mais je crois que la magie, la création, la vie, et ce qui peut nous sauver, et toujours, je dirais, cette idée de faire ressurgir, c'est ce que vous disiez, de faire ressurgir des choses, de l'inspiration collective, de donner la possibilité de faire réfléchir, d'apporter des choses, de faire rêver, d'aller à la rencontre de l'autre aussi. Je pense que c'est ça aussi la vraie magie. Mais pour ça, il faut arriver à briser des frontières, voilà, à faire changer les choses. Et c'est peut-être aussi, je dirais, pour moi, aussi notre boulot de boulot d'artiste.
Je vais être très pragmatique, mais pour moi, la magie, c'est comme n'importe quel objet, instrument. C'est la manière dont tu l'utilises, en fait, qu'on va réussir à s'en sortir ou pas. Quoi. Voilà, c'est ma pensée rapide.
Eh bien, merci. Je crois qu'on a passé un bon moment avec quatre magiciens.
Merci.
Je suis un troll, quand même.
C'est un troll.
Je sais pas, mais... vois, ça c'est le fait de mourir, le premier. J'ai trouvé que des mains de mort aussi. J'ai vraiment une personne dans la. Oui, c'est ça, oui. Ça se met très bien. Il y avait la nana au sein bleu qui passait, ça c'est des chances. C'est compliqué. Y'a pas de mal.
C'est moi qui l'ai accueilli.
Non, on attend notre modératrice.
J'avoue que c'était madame parce que je ne connais pas. Je n'ai pas le plaisir de vous connaître physiquement. Christina ? C'est notre sop, ça. Bon, mais donc du coup, je vais être intéressée par le livre parce que
je vais finir par modérer, c'est pas grave.
Entre nous. Non, mais physiquement, on ne connaît pas tous les autres.
On commence, mais tu veux
Est-ce qu'elle sait qu'on est là?
Tu veux dire quelque chose?
Non, mais c'est ça.
Voilà quelqu'un. Non, c'est toujours pas elle. Bah, c'est elle qui a organisé le débat. Elle est passée prendre du livre tout à l'heure.
Je la connais pas, celle-là. Vous la connaissez?
Oui.
Il y a une fuite.
Oui, sur les câbles. Si j'étais toi, je lâcherais le micro.
On peut peut-être déplacer.
Dans le.
Ça goûte méchamment sur le câble. Tout va bien, quand c'est bien, on va se passer de lui. Non, mais vous risquez rien parce que c'est les vôtres qui sont par là.
De toute façon, c'est le câble.
Je crois que je vais changer de place.
C'est le câble qui est obligé par là. C'est pas le micro.
Ah, très bien. Merci. Pour la précision.
Vous avez peur.
Ah, voilà.
Ah, j'ai cru que c'est... Par contre, moi je me rapproche parce que chaque fois, hier c'était pareil. Et en fait, j'avais le pilier, je ne voyais pas les gens. C'est très désolé.
Bonjour.
Le problème, c'est que j'enchaîne trois cafés.
Ah, ouais. C'est pas grave, c'est bon. Nous, on n'est pas pressé. Enfin, si toi, tu es pressé, peut-être.
Hein? Oui, on a le train à 6h20.
Ah oui.
Donc on terminera tout petit peu avant, on va se débrouiller, vérifier que tout est en ordre.
Vous avez besoin de quelque chose?
Des livres, il faut me les donner. Je pensais qu'il y en aurait deux exemplaires. Donc du coup,
je vais devoir les prendre.
C'est pas grave.
Vous avez pris devant moi les livres tout à l'heure.
Parce que d'habitude, quand je fais un café, j'en ai toujours deux. Un qui est présenté et un qui est là. On saura pour l'année prochaine, c'est trop tard, vous ne tracassez pas. Je vais les prendre et c'est bon. On est parti. Merci Christina. Ça c'est quand je suis vraiment vers la fin, très fatiguée, je cherche un micro. Bonjour et merci de braver la pluie. C'est vrai que ça devient un petit peu difficile en fin de festival. On a eu trois très belles journées, un petit peu plus enfin. On va arriver même si. Le public est un petit peu moins nombreux, c'est pas grave. Comme on dit aux États-Unis, the show must go on. Pardonnez mon anglais extrêmement pitoyable, mais vous avez compris le sens. Donc on est ravis de vous accueillir pour l'un des derniers cafés littéraires des Imaginales 2012. Le dernier tout à l'heure, ça sera Pourquoi écrivez-vous, que j'aurai le plaisir d'animer pour clore cette rencontre. En tout cas, le roman historique, vous l'avez bien compris, même si c'est nouveau, relativement nouveau aux Imaginales, est en train de prendre ses marques. On va continuer d'année en année à le construire, à le développer et donc à accueillir de plus en plus d'auteurs de romans historiques qui devraient fort bien s'entendre avec les auteurs de fantasy parce que parfois, de l'un à l'autre, et je pense que Mireille Calmel est particulièrement emblématique de ce style de littérature, on ne sait plus très bien si on est dans le roman historique, dans le fantastique, dans la fantasy, et finalement, si le plaisir est là, le plaisir de lecture, quelle importance. Donc autour de moi, des habitués du festival, Christina Rodriguez, déjà habituée, depuis déjà 2 ans en tout cas, Frédéric Lenormand, on s'habitue très vite, je crois, en général, Tan Van Tranot qui est là pour la la première année, mais on espère aussi revoir. Et puis Mireille Calmel, c'est une rencontre différée depuis un moment, mais ça y est, cette fois-ci, elle a pu se rendre disponible pour nous, et donc je tenais à l'en remercier tout particulièrement. C'est toujours un peu plus difficile quand on arrive alors que le festival n'a pas encore construit ses marques sur le roman historique. C'est en train de se faire, doucement, mais sûrement, le public commence à réaliser que l'imaginaire et le roman historique se marient.
C'est génial, donc je reviens l'année
prochaine. Ah, bah alors là, j'en suis encore plus ravi. Je n'osais pas trop tôt, je voulais le faire en dehors, encore durer. Non, je ne suis pas sûr que j'ai très envie d'y revenir. En tout cas, merci. On va donc partir directement sur ces romans. Des périodes très différentes, des lieux très différents. Ça part de l'Antiquité, avec Christina Rodriguez, toute une série de romans. J'ai choisi, j'aurais pu en prendre d'autres, Meurtre sur le Palatin. C'est un des exemples de ce qu'elle fait par la rencontre entre le roman et puis l'histoire de Rome. Avec Tranat, nous allons avoir les corbeaux de la mi-automne, une enquête du mandarin Tan. Je dois dire, vous m'en pardonnerez que la dernière fois, c'est-à-dire je n'avais pas encore lu un seul roman, et là j'en ai déjà lu trois. Ça c'est signe que c'est pas seulement le service minimum, mais l'envie vraiment de découvrir cet univers vietnamien du XVIIe siècle. Mireille Calmel, Aliénor, Le règne des lions, c'est la suite du livre d'Aliénor. J'ai voulu aussi prendre un roman récent, nous en lirons aussi un petit extrait. Et puis le XVIIIe siècle. On est un peu avant la Révolution française et quelque part on s'en rend compte. Alors Frédéric Lenormand, qu'est-ce qui vous a amené, c'est un peu provocateur, Voltaire mène l'enquête. On sait bien que Voltaire n'a pas hésité à dénoncer l'absolutisme, on verra d'ailleurs qu'il le fait tout en faisant attention à ne pas avoir trop d'ennuis. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée saugrenue de faire de Voltaire un détective privé?
Ça vient naturellement en fait. Voltaire est quasiment l'inventeur du roman policier avec Zadig, puisque Zadig est en fait un enquêteur, c'est quelqu'un de très intelligent qui observe et qui tire des déductions de tout ce qu'il voit, qui lui permet de voir plus loin que les autres. Donc Voltaire a un lien avec le roman policier. Et puis j'aime beaucoup Voltaire, et c'est un personnage extravagant, et c'est un cadeau pour un romancier d'avoir un type roublard comme ça, très intelligent, qui fait du scandale en permanence, même quand il ne veut pas, qui fait de tout, qui écrit des pièces de théâtre, de la philosophie, des poèmes, qui va dans tous les milieux, et qui se déguise. Quand j'écris dans un chapitre que Voltaire se déguise en curé pour aller pour infiltrer des funérailles incognito, mais il le faisait, et on a un récit de quelqu'un qui est allé dans un café célèbre au Procope au XVIIIe siècle et qui dit qu'il y avait un petit bonhomme assis dans le fond avec un costume d'abbé pour écouter ce qu'on disait de la nouvelle pièce, et c'était l'auteur et c'était Voltaire.
La réalité parfois pas plus forte que la fiction, le humain a toujours le dessus, mais quand même. Petit extrait justement de Meurtre dans le boudoir, c'est le deuxième volume de cette série, j'espère, parce qu'elle nous amuse aussi beaucoup, appelé un bel avenir. Les parties philosophiques de son recueil avaient sa préférence, notamment celle où il attaquait l'Église et la féodalité à la française. « Suis-je donc taquin ?» dit-il pour lui-même. Séran vint annoncer qu'un visiteur se permettait d'insister pour déranger les mourants qui lisent. Voltaire grogna. C'était horripilant, surtout quand on était en pleine révision de textes d'un intérêt capital pour la pensée moderne. Il n'y avait pas moyen de travailler en paix au bien-être du genre humain, même dans les derniers instants que vous accordez le grand projet de l'univers. « Dites que je suis mort, sauf si c'est pour acheter du grain, rendre de la paille, discuter de mes œuvres ou apporter un lavement. »« Je crois que c'est la police, » répondit le secrétaire, gêné. Les épreuves de la philosophique anglaise bondirent en l'air. La police portuaire demanda à l'écrivain, il se précipita pour cacher ses livres de compte, imprudemment distribués sur deux tables, n'importe quel œil de comptable mal intentionné pourrait les voir. « Plutôt la police des mœurs, je dirais, l'informa Serrant. Pourquoi la police portuaire voudrait-elle voir monsieur ?»« Pour rien, » dit Voltaire. Il lâcha ses livres de compte, rassembla les épreuves des lettres en un tas informe qu'il fourra sous le matelas. Il fallait espérer qu'on ne pousserait pas la barbarie jusqu'à déplacer un moribond pour fouiller sous son postérieur endolori, quoique parfumé. Ce Voltaire qui se prétend toujours mourant, c'est vraiment la réalité historique?
Ah oui, il a été malade toute sa vie. C'était le mourant le plus vieux du XVIIIe siècle. Il le disait lui-même, il a... on a mis 9 mois à le baptiser bébé. Enfin, on a attendu 9 mois pour le baptiser. Le baptême n'était pas obligatoire à l'époque. On faisait des... on envoyait les bébés à la naissance et après on faisait la cérémonie à l'église. Ses parents, il était tellement mal en point à la naissance, ses parents l'ont dit, bon, celui-là, il va pas durer longtemps, c'est pas la peine qu'on dérange le curé. Et on l'a baptisé au mois de novembre, alors qu'il était né en février. Il a été malade toute sa vie, on pense qu'il avait une inflammation chronique des intestins. Donc il passait 3 jours par semaine au lit. Et il se soignait par des lavements, il avait une armoire remplie de clistères, on le sait. Il a de toutes les tailles, il s'en faisait envoyer de toute l'Europe, y compris en verre de Murano, y compris un petit pour pouvoir faire un lavement en carrosse. S'il devait fuir en vitesse, il était toujours à même de se soigner sans arrêter la voiture. Je n'ai rien inventé. C'est ce qui est bien chez Voltaire, il n'y a rien inventé.
Alors justement, puisqu'on parle de l'invention, de la partie invention romanesque, d'enquête, et puis de la partie historique, le romancier historique, quel est un petit peu le curseur entre la documentation, le sérieux, la rigueur des faits, et puis le romanesque, Frédéric Lenormand?
Ah ben, sur Voltaire, c'est très simple. Il écrivait 10 lettres par jour. On les a... Il y a 13 volumes dans la Pléiade. Donc, c'est comme si j'avais son agenda. Heure par heure, je sais ce que Voltaire a fait chaque jour. Je choisis une période intéressante. J'ai la réalité historique et j'essaye d'imaginer les dialogues et puis je case mon enquête dans les rares vides qu'il y a. Il n'y a pas grand chose à faire.
Christina Rodriguez, vous procédez comment? Parce qu'on a quand même un petit peu moins de documents sur la période romaine, même si on en trouve. Comment vous faites pour... Vous inventez complètement ou quand même vous avez fait un travail de documentation et de lecture?
Non, il faut toujours, quand vous faites le roman historique, il faut toujours un travail de documentation très très important. Parce qu'il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment bien connaître la période, vraiment être comme dans un poisson dans l'eau dans la période sur laquelle on travaille, pour que le lecteur, lui, puisse y rentrer également sans s'en apercevoir. En fait, il faut vraiment apprendre tout ce que vous pouvez, toute la documentation dont vous avez besoin et quelque part l'oublier. Travailler naturellement, et c'est ce qui va permettre au lecteur de rentrer dans l'histoire. Parce que justement, il va voir que c'est pas possible. Il va voir qu'on lui fait pas un cours d'histoire, on lui raconte une histoire.
Mireille Calvin, justement, vous ne faites pas de cours d'histoire, rassurez-nous.
Non. Non, je suis tout à fait d'accord avec Christine. C'est avaler la documentation avant, et une fois qu'on l'a digéré, se mettre à écrire, quitte à y revenir si on a un doute sur quelque chose, quitte à vérifier après. Mais non, là, il faut que le lecteur oublie, effectivement, qu'on replonge dans quelque chose qui a existé pour lui laisser s'approprier les événements et les émotions.
Et pour vous, Talman Tarnot, vous fonctionnez comment? Comment vous trouvez une documentation sur le XVIIe siècle au Vietnam?
Assez difficilement, en fait. À Paris, je suis allée assez souvent à l'école française de Saint-Mormion, parce qu'ils ont un grand fonds de livres, de récits de voyage, des missionnaires, bon, un peu après le XVIIe siècle qui m'intéresse, mais les choses n'ont pas tellement changé pour que je ne puisse pas utiliser ces documents. Donc il y a des récits de voyageurs, mais aussi des documents sur la médecine. Et il y a aussi également un fonds important à l'INALCO, au Longzo, à Paris. Et puis il y a aussi d'autres documents qu'on peut consulter en ligne, surtout des documents faits par des chercheurs dans les universités américaines ou allemandes ou italiennes. Et quand c'est validé par les pairs, on peut espérer qu'on peut s'appuyer dessus pour faire son histoire.
Eh bien, voyons ce que ça donne. 9 flèches pour 9 corbeaux. Voilà un bel exploit qu'on s'est donné. Le conseiller Ti en lissant sa moustache. Je ne suis pas venu pour rien. Notre province reculée abrite des hommes de talent, répondit le mandarin Tan. Content que vous ayez pu le constater de vos propres yeux. Notez le surpoids que cet archer, tant acclamé, inspire du tribunal. Notre magistrat, contrairement à sa pratique de ses collègues du Sud, n'emploie que les gens capables. Le lettré digne, cintré dans sa veste vert fourré, dressa un doigt maigre pour ponctuer ses propos. Sa bonne humeur était quelque peu altérée par le fait que sa tunique semblait être coupée dans la même étoffe que le dé. Cela relevait d'une inadmissible faute de goût, comme s'il avait cherché à se fondre dans le décor. Il fallait qu'il tense le tailleur qui lui avait suggéré ce tissu d'ameublement. Vous avez raison, Etrédine. À la capitale, nous manquons rarement l'occasion de faire des gorges chaudes du laisser-aller notoire des mandarins du sud. Ceux qui se rallient à ce félon de seigneur Nguyen sont des bras cassés qui ne sauraient servir le seigneur Trim, voire l'empereur Lé, glissa le mandarin Tan sur un ton anodin. Le conseiller se rattrapa de justesse. Bien sûr, le seigneur Trim n'œuvre que pour le bien de l'empereur et pour celui de la nation. Tout le monde le sait. Le lettré Dean se détourna pour cacher son sourire. Personne n'ignorait au contraire que le seigneur Trim, qui secondait l'empereur, nourrissait les ambitions démesurées. Ce flagorneur pour lequel travaillait le conseiller Ti n'attendait que la défaite de son rival Nguyen du Sud pour tenter d'usurper le trône. Leur hôte retint son attention. C'était un homme raffiné dont la moustache lustrée semblait dégager une senteur de lilas. Sa peau, légèrement grêlée, accroissait le mystère de ses iris aussi sombres qu'une goutte d'huile. Il portait beau dans sa veste rouge pivoine, assortie à un pantalon, tombé impeccable. Le temps passé au service du seigneur du Nord avait conféré à ses gestes une aisance de diplomate qui renforçait encore son charme inné. En les observant de profil, Dean eut soudain la sensation que le mandarin Tan était encore inexpérimenté, alors que son visiteur possédait la rondeur sophistiquée de ceux qui approchent de près le pouvoir. Le Nord, le Sud, des conflits. Quand on a suivi, il y a quelques dizaines d'années, la guerre du Vietnam, le Sud et le Nord, on se dit, mais est-ce que c'est une histoire peut-être encore plus ancienne, cette opposition entre ces deux parties du Vietnam? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Évidemment, il y a un lien très fort entre les deux époques. Et ça provient de mon expérience personnelle parce que je suis née pendant la guerre du Vietnam que l'on connaît au XXe siècle, qui a opposé donc le Vietnam aux Américains. Et en grandissant, donc, je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'on a eu cette guerre civile et je voulais comprendre les causes de cette occupation américaine du Vietnam. Donc en recherchant un peu dans l'histoire, bon, j'ai compris que les Américains étaient venus au Vietnam parce que les Français leur avaient laissé la place. Donc la question après, c'était mais pourquoi les Français étaient là? La réponse est parce que le Vietnam avait été colonisé par les Français. Mais alors, on pouvait se poser la question, mais que faisaient les Français à cette époque au Vietnam pour le coloniser? Et la raison, c'est parce que un seigneur du Sud s'appelle Nguyen, a fait appel aux Français pour l'aider à remporter la victoire contre un seigneur du Nord, le seigneur Trin. Et cette aide, une fois qu'elle a apporté la victoire au Sud, a été chèrement payée, puisque la porte a été ouverte aux Français pour le début de la colonisation. Donc, la première guerre civile qui était vraiment très importante pour le pays, ce n'était pas celle du XXe siècle, mais celle du XVIIe siècle, qui a vu s'affronter donc, le seigneur Trin du Nord et le seigneur Nguyen du Sud, avec la victoire du seigneur Nguyen.
Alors évidemment, votre roman et votre mandarin Tan ne sont pas des cours d'histoire. Tout ça passe sans qu'on s'en rende compte. Mais ce mandarin, ce personnage de mandarin, vous l'avez, j'imagine, complètement inventé.
Inventé, oui, mais il a été inspiré, en fait, par un aïeul du côté maternel. Alors, un mandarin, c'est un officier qui a réussi des concours mandarinaux et donc qui sert l'empereur. Et donc, dans la famille, on avait un aïeul qui avait très bien réussi ses concours à un âge très jeune. Donc, vous imaginez que quand on était enfant, enfin ma sœur et moi, on avait vraiment cette ombre qui planait sur nous parce qu'on nous disait il faut réussir dans les études parce que dirait votre ancêtre, etc. Donc, devenu adulte, ma sœur a voulu écrire des romans policiers pour se distraire de sa carrière de physicienne. Et moi, j'étais ingénieure, donc elle a dit bon, pour s'amuser, on va faire un roman à mandarin. Et donc on s'est dit, oui, d'accord, on va apprendre le mandarin, cet aïeul, et puis on va lui le mettre dans des situations pas possibles où il sera obligé de se battre contre des coups de jarret, il va prendre des coups, on va le laisser pour mort, et ce sera notre revanche, entre guillemets, contre cet aïeul. Donc il a été inspiré par quelqu'un de réel, mais bon, on l'a rajeuni, on l'a rendu très beau et séducteur. Et on lui a donné le prénom de notre père, Tan, et je ne sais pas pourquoi il s'est reconnu tout de suite dans ce, dans ce mandarin jeune.
On va partir beaucoup plus en arrière. Le règne des lions. On est à Bordeaux, l'Aquitaine, et on sait bien que l'Aquitaine, la Guyenne, tout ce secteur-là, dans l'histoire de France, a été très disputé entre la France et l'Angleterre. Et qu'évidemment, tout ça aura des répercussions, la guerre de Cent Ans, et toutes ces choses viennent ou se préparent dans votre œuvre. C'est une période qui vous passionne, Mireille Calmel, pourquoi ?
Par hasard. C'est terrible de dire ça. Non, en fait, j'ai écrit le Lied Athénor tout à fait par hasard, puisque je suis venue m'installer en Aquitaine en 1585. Et voilà, et je suis tombée devant l'admiration dans les ruines d'un château, le château de Troubadour, qui était contemporain d'Aliénor. Et voilà, et on m'a raconté l'histoire de sa légende, l'histoire de Geoffrey Rudel, et j'ai pas vraiment eu envie d'y croire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire le Lied Athénor, ce qui est devenu le Lied Athénor. Et puis le succès de ce livre, donc avec. C'était prévu que ce soit une grande saga, plusieurs tomes et tout ça, si je trouve. Que je trouve non, un éditeur de toute façon. Et puis le succès du Lied Athénor, c'était un très très bon succès de librairie, a fait que ben, j'ai pas voulu continuer parce que je me suis dit que si jamais je sortais la suite, on penserait que ce serait c'était forcément une suite commerciale. Or, moi je sais toujours su que j'étais un écrivain, mais je n'étais pas seule à le savoir, donc il fallait absolument que je l'explique. Et le seul moyen de le prouver, c'était d'écrire autre chose derrière, de me remettre tout de suite en danger et en question. Et voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit 14 livres avant d'écrire celui-ci, et je crois que je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit, bon, maintenant ça va, je crois que tu as fait la part des choses, tu n'as plus rien à prouver à toi, peut-être encore aux gens, mais bon, voilà, beaucoup moins, en tout cas, personne ne n'ira contre le fait qu'aujourd'hui, ce livre-là, il est légitime, il n'est pas un coup de pub ou un coup de quoi que ce soit. Voilà, donc c'est pour ça que j'y suis revenue. Mais il a toujours été là dans ma tête hein, et dans l'attente.
On va plonger dans les années 1160. J'ai passé une nuit tourmentée, peuplée de figures étranges qui me harcelaient de leurs grimaces. Nous étions rentrés au castel de l'Ombrière avant même que ce coup de jarret ne ressorte de l'auberge. Il me tournait le dos, parlait à voix basse face à la cheminée, et je m'étais appliqué à ne pas dévisager ses compagnons, même si l'envie m'en chatouillait. Mieux valait ne point attirer l'attention sur Henri et Aliénor. Si j'ignorais la raison de sa présence en Aquitaine, elle n'augurait rien de bon. Geoffrey fut de mon avis. L'un et l'autre, nous en gardâmes l'inquiétude et le secret, refusant de gâcher les agréables moments de la journée qui s'annonçait. Elle se fondit dans les préparatifs de l'avant. À cette occasion, Bordeaux tout entier était en effervescence. Depuis quelques jours déjà, un marché couvert bordait la première couronne du château de l'Ombrière, décoré de bannières. On y vendait oublié pommes d'amour, beignets et maronchons, mais aussi poulets et cannes qui jacassaient bruyamment, cailles dans leurs cages grillagées, jarres hurlant sur le passage des enfants craintifs, légumes à profusion, fruits confits, lampes à huile, chapelles, tissus, tapis, épices venues d'Orient, bassines et brocs, brosses et balais, pignes de pain, recouvertes de fils dorés ou de peinture, et même du bon temps. Car nombre de gens s'ébaubissaient devant des joglards qui, de cabriole en ritournelle, laissaient leurs animaux savants tendre ses bouts. Dans cette cohue, bourgeois, batteleurs, négociants, mendiants ou voleurs se promenaient à l'envi. Les uns jugeant la marchandise, les autres la chapardant, au risque de se voir amputé d'une main par les gendarmes. Ça ne rigolait pas à l'époque, Mireille. Est-ce que quand vous rédigez un passage comme celui-ci, vous avez travaillé le langage de l'époque ? Ou est-ce que c'est une recréation ?
Non, j'utilise des termes de l'époque, mais pas beaucoup, parce que je prends toujours soin à ce que ça reste lisible et compréhensible dans la phrase, par la tournure de la phrase, par tout ça.
Mais j'essaie, oui, de placer des termes, soit des termes régionaux, soit des termes plus larges, pour qu'il y ait... Mais, enfin, je ne fais pas vraiment exprès, ça vient naturellement, parce que c'est un langage que j'ai pris l'habitude maintenant de l'utiliser. Alors, après, il y a des choses un peu plus spécifiques, suivant... Bon, là l'Aquitaine, maintenant, je la pratique un peu, depuis du temps que j'y suis. Mais quand je vais dans d'autres endroits, dans d'autres régions, je fais un travail sur l'archive, et du coup... arriver à trouver des petites choses spécifiques des lieux, comme la cuisine, les tenues vestimentaires, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt simple.
Poursuis un peu cette description, le marché, les personnages, ce qui se passe autour. Voilà, on a une sorte de panoramique, un petit peu, pour rentrer dans le vif du sujet. Cette agitation se retrouvait en chaque endroit du palais. Aux cuisines, outre le repas de midi et du soir, on préparait déjà le banquet qui devait, le lendemain, rassembler les 400 convives choisis avec soin par la duchesse. Aliénor avait elle-même décidé du menu, qu'elle voulait opulent, épicé et inventif, de sorte que chef, commis et marmiton ne levaient pas le nez des fourneaux. Au dehors, mulets et chariots franchissaient la poterne sous le regard bienveillant des gardes en un incessant va-et-vient. Les dames de compagnie d'Aliénor s'attardaient devant leur mâle pour choisir leur toilette. Les hommes se délectaient de grasses plaisanteries ou d'histoires de chasse. Regrettant de n'avoir plus le temps de soulever le tablier d'une servante ou de s'attarder sur le port hautain d'une autre, des valets dressaient ses tables, couverts et décorations dans la salle du banquet. Les échansons rassemblaient le vin tasté par le connétable, là où des valets s'affairaient à cirer les œufs, d'autres les lattes du parquet, dans la cour du palais, arrivaient peu à peu litières et chevaux aux armes des barons d'Aquitaine. Des garçons d'écurie les dégageaient prestement. Prenant le relais, des laquais empressés ramenaient les arrivants vers ceux qui les avaient précédés à l'intérieur, d'autres les redirigeaient vers leurs appartements. Semblant protéger ce remue-ménage, un ciel aussi clair que celui de la veille laissait un soleil franc embellir les visages et réunir ceux que les distances et les occupations avaient depuis trop longtemps éloignés. Quand on décrit cette période, on a l'impression que les banquets, en tout cas dans certaines catégories sociales, jouaient un rôle important. Les distances aussi, puisqu'on parle de retrouvailles, de gens qui ne s'est pas vu depuis longtemps.
Alors là, on est dans un contexte un peu particulier, puisqu'on est dans le contexte de Noël, et puis il y a une coquelinière, donc il y a forcément une plus grosse assemblée de notables, on va dire de notables, c'est plus simple. Oui, les banquets, à la cour d'Aliénor en tout cas, ont toujours une très très grosse importance, parce qu'ils drainaient à la fois, donc c'est notable, mais ils drainaient aussi beaucoup de troubadours, beaucoup de vie, et Aliénor était très friande de ses cours d'amour, elle était très friande de musique, elle était très friande d'art sous toutes ses formes. Donc c'était très vivant, il y avait des tournois, vous auriez pu citer aussi un passage dans lequel je décris des joutes sur la Garonne, et qui comme ce passage-là est historique. Donc c'est assez rigolo, voilà. On voit un abbé qui parce qu'on lui a promis quelques deniers, il va se donner un spectacle, et oh, c'est des bras comme des moulins avant de tomber dans l'eau, enfin, voilà. Donc ça, des fois c'était très très drôle parce que c'était le moment où le peuple finalement, lui qui assistait à l'aide de l'extérieur et qui ont distribué, quand il y a des grosses réunions comme ça, ont distribué de la nourriture, finalement profiter à la fois des jeux, profiter de tout un tas de choses, même si c'était pas les premiers à regarder et en jouer, quoi. Mais c'était plutôt sympa. Voilà. Après, évidemment, il y a le petit peuple, c'est une autre histoire. Mais là, dans le contexte d'Aliénor elle-même, c'était très vivant. Enfin, en tout cas, d'après les témoignages qu'on en a.
Meurtre sur le Palatin, Christina Rodriguez. Hein. On va vous présenter le personnage, pas à vous, bien sûr, à nos lecteurs. Le personnage de Caïso, qui est votre enquêteur.
Le mot Caïso. Ah,
bon, dites-nous en plus, avant que je lise Alex.
Non.
Bien joué. Le lit de Caïso fut agité d'une violente secousse. Encore un tremblement de terre. C'était le deuxième depuis son arrivée à Pompéi. Le jeune prétorien se réveillait en sursaut, haletant, prêt à se précipiter dans la cour de la caserne pour se mettre à l'abri d'un éventuel effondrement, mais vit sa jeune cousine au-dessus de lui, qui le secouait comme un tapis sur le rebord d'une fenêtre. « C'est vrai ce que dit Mustella ?» pressa-t-elle à demi couché en travers de son torse. « Tu l'as vu ? Raconte-moi, Caïso, de quoi a-t-il l'air ?» Celui-ci immobilisa ses bras frêles d'une seule de ses grandes mains en lui attrapant les poignets et vissa ses yeux clairs à ceux de la jeune femme, d'un marron vert presque doré, comme de jeunes noisettes. Concordia, criait-il, en s'asseyant sur sa couche le cœur battant. De sa main libre, il se frotta le visage baigné de sueur, sur les joues duquel commençait à percer une barbe blonde, et essaya d'émerger du sommeil agité dans lequel il avait sombré, après avoir ramené à la caserne le corps retrouvé dans la ruelle. Respirez calmement, inspirez, expirez, et surtout se reprendre. Il s'appelait Kaiser Concordianus Licinus, centurion de cohorte de la garde prétorienne et directement sous les ordres de l'empereur Tibère. Il n'était plus à Pompéi depuis des mois, avait ses quartiers à Rome, dans l'une des maisons de la famille impériale, sur le Palatin, et il n'y avait aucun tremblement de terre. Son souci le plus urgent était un meurtre perpétré durant la nuit. « Alors, assista Concordia en sortillant pour se libérer, raconte !» Et il allait y en avoir un second, si elle ne lui fichait pas la paix dans la minute. « Que fais-tu dans ma chambre, Concordia ?» demanda-t-il en détachant lentement ses syllabes, menaçant. Elle lui répondit par un regard désarmant. « Ustela a dit que vous aviez vu ce que vous aviez... Ustela a dit que vous aviez vu Apollonius, » s'écria-t-elle, comme si c'était une évidence. Il la lâcha et quitta son lit en agitant un doigt accusateur devant la truffe Guillot qui somnolait tranquillement sur la descente de lit. « C'est comme ça que tu protèges ton maître, toi » gronda-t-il, « en laissant entrer n'importe qui ?» Il a peur des jeunes femmes, Caïso.
Il les aime un peu trop, je crois. Là, on a affaire à Concordia, c'est un petit peu particulier.
Peut-être un petit mot sur Concordia.
Alors, on va expliquer un petit peu Caïso. En fait, un officier de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'était la garde rapprochée des Césars. Là, il se retrouve, on est donc à Rome, on est sur le Palatin, qui est la colline de Rome où habitait toute la noblesse romaine. Et il vient d'y avoir un meurtre, justement. Et Caïso, qui vient de retourner à Rome, vient de se réveiller après avoir passé une nuit d'enfer, avoir amené ce corps à la caserne. Et donc, il est un peu perdu lorsqu'on se réveille. Et Io, dont on entend parler, c'est pas un chien, c'est un léopard qui se prend pour un chien. Qui est la compagne de Caïso depuis pas mal de temps. Et enfin, Concordia, c'est sa cousine qui est folle amoureuse de lui et qui lui colle aux fesses, si on peut dire, depuis qu'elle est en âge de marcher.
Un autre extrait, alors là, on repart beaucoup plus loin dans le temps, avec Voltaire, toujours mort dans le boudoir. On y parle aussi de livres interdits, sans qui la marquise, de facto, puisqu'il contient plus d'une page, répondit le libraire. Leur choix s'arrêta sur Histoire du prince Aprius, le Sylphe et Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Ils demandèrent où l'on pouvait rencontrer les auteurs. Voyons, ces romans-là n'ont pas d'auteur, hormis peut-être Manon Lescaut, depuis que l'abbé Prévost s'est réfugié à l'étranger. Ils achetèrent les trois et aussi le répertoire de Monsieur Langlais. Cela me fait bizarre d'acquérir le livre de quelqu'un d'autre, dit Voltaire. J'ai l'impression de commettre un impair. Partager les deux points communs à la plupart des écrivains. Se plaindre du faible montant de leur vente et ne jamais acheter l'ouvrage d'un collègue, sauf à y être contraint par force. Il prit aussi un exemplaire de la bulle Unigenitus. Peut-être pourrait-il en tirer un petit commentaire de sa façon, pour le lire dans les salons du fin de cours Saint-Honoré, puis dans ceux de la Bastille. Il paya ses achats et les donna porter à Milan, car il tenait à sa réputation. Tandis que vous, un clerc de l'Église, vous êtes insoupçonnable, lança-t-il à l'abbé, déjà chargé du sac de paille. Alors ces personnages qui discutent de livres sous pseudonyme, de livres interdits, on voit bien qu'il y a beaucoup d'humour, puisqu'on parle des salons de la Bastille. Ces auteurs du XVIIIe siècle qui sont toujours menacés par un petit séjour à la Bastille
Oui, tous les auteurs du XVIIIe siècle passaient à un moment ou à l'autre à la Bastille. En général, il y a un bon moyen pour gagner de l'argent au XVIIIe siècle quand on écrivait des livres, c'était d'écrire des livres cochons, parce que ça se vendait très bien, mais c'était interdit. Alors, la police vous faisait la chasse, évidemment, elle les publiait sous pseudonyme, mais elle essayait de savoir qui c'était, et quand elle s'apercevait, quand elle découvrait quel était l'auteur, on envoyait l'auteur réfléchir sur ce qu'il avait fait à la Bastille pendant un temps plus ou moins long, suivant qu'il avait des relations pour l'en faire sortir. Donc en effet, et l'abbé Prévost, qui a écrit Manon Lescaut, qui est aujourd'hui un livre qu'on lit toujours, a dû s'enfuir en Hollande, où il a passé plusieurs années avant d'obtenir son pardon.
On va repartir au Vietnam, on se promène beaucoup, finalement, dans le temps et dans l'espace. Le sbire Koa avançait sur la piste déserte avec le pas furtif d'un voleur. En ce début d'après-midi, les paysans, accablés par la chaleur, dormaient sur le natte de jonc pendant que les buffles se blottissaient à l'ombre. Immobile sur une branche, un macaque à queue de cochon, les pieds en grignotant un bourgeon juteux. Sous les ramures, babillaient des merles à tête grise, rythmant sa progression de leurs cris. Le cœur lourd, ils n'entendaient rien de concert arrêté, rien de concert aérien. La tente, la nuit dernière, près du temple du crapaud à trois pattes, l'avait miné. Il avait ressassé ses choix, qui étaient plus discutables les uns que les autres. Il avait cédé à la peur, à l'amour, à toutes ces émotions troubles que la raison tentait de tenir à distance. Il avait eu beau se persuader qu'il ne faisait de mal à personne, au fond de sa conscience se tordait le serpent de la trahison qui lui rappelait sa déchéance. Lors de la surveillance nocturne, il avait senti ses écailles glisser sur son dos, une fusion glacée qui remontait le long de sa colonne vertébrale. Il avait patienté, suspendu entre les remords et la haine de soi, espérant que l'action le libère enfin de cette gluante léthargie. Lorsque les cris s'étaient élevés du temple, il avait bondi, franchissant le muret qui longeait les bâtiments. Il avait foncé sur le local illuminé où un jeune taoïste tournait vers lui une figure effrayée, trois corps étendus par terre. Le plus jeune, en habit de moine, respirait encore à côté d'un maigrelet qui gémissait doucement. Plus loin, un homme dans une flaque de sang, une pioche à ses pieds. Le vandale, au moment où il s'était penché sur lui, Kao avait su que c'en était fini des serments de fidélité au mandarin Tan, qu'il était en train de faillir à toute la confiance que ce dernier avait placée en lui. Faisant écran de son corps, il avait fouillé le cadavre, espérant un instant ne rien découvrir, puis ses doigts avaient ramené un papier qu'il avait empoché prestement. Il n'y aurait pas de retour en arrière. On va trop en dire, bien sûr, puisqu'on ne va pas dévoiler cette enquête du Manoratan, les corbeaux de la mi-automne, mais on voit bien quand même que, même si ça n'est pas dit clairement, il y a toujours, en tout cas une partie de ces personnages, un lien entre le réel, les faits, l'enquête, et puis aussi toujours un peu, que ce soit dit ou non, des superstitions, des démons, des inquiétudes. On est toujours entre le réel et puis ce Vietnam du 17e où les esprits ont l'air d'exister, de nous entourer et de peser sur les choix des personnages.
Oui, en effet, il y a le monde des faits réels, de l'enquête que mène le mandarin et le monde des esprits qui, pour tous les Viet, entoure et englobe et s'insère dans le monde des vivants. Par exemple, chez les Viet, il y a toujours cette liaison très intime avec les morts, avec une fête qui s'appelle la fête des âmes errantes, qui, une fois par an, fait qu'on allume de l'encens, on fait brûler des vêtements, on offre de la nourriture à des âmes errantes, c'est-à-dire des défunts qui n'ont pas trouvé de sépulture ou bien qui ont subi des crimes violents et qui reviennent clamer vengeance. Donc il y a toujours dans une enquête cette dimension un peu surnaturelle, un peu superstitieuse qui vient se mêler et quelquefois ça permet de brouiller un peu la frontière entre le réel et le rêve.
On va repartir très très en arrière aussi, mais un petit peu plus, janvier 1164. Parfois on parle de choses extrêmement violentes dans le roman historique. Janvier 1164 n'était pas fini qu'il faisait placarder les constitutions établies en la ville de Clarendon. Outre les éléments soulevés par Henri au cours du synode, leur texte réduisait l'ingérence du pape et les privilèges du clergé, les ramenant à l'usage qu'ils avaient du temps de son grand-père, Henri Ier Beauclerc. Un des articles, tout particulièrement, souleva remous. De fait, de nombreux abus avaient terni l'image de l'Église. Quand ce n'était pas ces prélats de graisse et de fourrure, c'était des religieuses qui s'étaient ouvertes à la fornication avec des convers, comme en l'abbaye d'Amesbury, ou des prieurs qui copulaient en sodomie avec des enfants
hurlant de douleur. Les scandales éclataient, entraient au tribunal de Dieu et n'en ressortaient plus. On éloignait les coupables qui avaient acheté leurs indulgences et l'affaire s'en tenait là. Je savais qu'Henri estimait inacceptable et depuis longtemps ses pratiques. Alors, il décida que désormais, tout clerc coupable de faute grave ou de meurtre,